à tous nos auditeurs. Vous écoutez l'émission Personnages insolites sur Radio Grand Ciel, proposée par Christina Fauta
et Elisabeth Couget,
avec la participation technique de
Simon Martin. Voilà. Merci Simon.
Alors, notre personnage d'insolite d'aujourd'hui, tout le monde le connaît et a lu l'une ou l'autre de ses œuvres.
Oui, bien sûr, je pense que vous le connaissez puisqu'il s'agit d'Alexandre Dumas. C'est donc qu'il a tout écrit, romans, nouvelles, théâtre, poésie, essais d'histoire, récits de voyage, plus de 600 titres, vous n'avez pas tout lu j'en suis sûre, et plus de 1000 volumes.
Alors, il a tout écrit et il a tout vécu.
La vague du romantisme, le souffle des révolutions de 1830 et de 1848, l'amour, la liste de ses conquêtes serait très longue, l'amitié, dont Gérard de Nerval, Franz Liszt, Victor Hugo, George Sand, la fortune qu'il préférait dépenser, et bien sûr aussi l'aventure de la presse. Il a créé plusieurs journaux, il a fondé des compagnies de théâtre, sans compter bien sûr les plaisirs de la table. Un homme d'une vitalité et aussi d'une générosité sans pareil.
Alors, il avait le panache de ses héros, mais revenons peut-être au début de sa vie. Alors, il est né en 1802, au tout début du 19e siècle, la même année que Victor Hugo, un an après Franz Liszt.
Et il a 3 ans et demi à la mort de son père. Il faut quand même que je vous dise un petit mot sur son père. Son père qui était général, c'était un personnage tout à fait insolite, déjà par ses origines, car le grand-père d'Alexandre, donc le père de son père, s'appelle aussi Alexandre, c'est vraiment un prénom de famille, mais il s'appelle Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie. C'est un petit marquis qui a acheté une plantation à Domingue, à Saint-Domingue, à Haïti, où il a pris une concubine, une jolie esclave. Elle s'appelle Marie et comme elle s'occupe de la maison, on l'appelle Marie Dumas. Marie Dumas. Marie Dumas met au monde plusieurs enfants, dont l'aîné Thomas Alexandre deviendra le père de notre personnage insolite, Alexandre Dumas.
En 1772, un cyclone va ravager l'île. Marie Dumas va mourir au cours de ce cyclone. La plantation sera en ruine. Alexandre Davy rentre en France, va récupérer son héritage. Après avoir vendu ses 4 enfants.
Et oui, carrément.
Oui, carrément. Cependant, 4 ans plus tard, en 1776, il va les racheter. Enfin, au moins le fils aîné, qui fut fait rapatrier et reconnaître comme son fils naturel.
Alors, le père d'Alexandre Dumas va brûler les étapes et sous la Révolution, il devient général. Mais attention, un général au grand cœur. D'ailleurs, on le surnomme « Monsieur de l'Humanité ». La guillotine lui répugne. On va lui demander de la faire marcher, mais au lieu de la faire marcher normalement, si on peut dire, il va la démolir pour en faire du bois de chauffage, ce qu'il trouve beaucoup mieux. Et il est à ce moment-là convoqué immédiatement par le comité de salut public pour crime de lèse-guillotine. Heureusement, ses états de service le font acquitter.
Il est inclassable. Pas vraiment aristocrate, pas bourgeois, ni vraiment du peuple.
Mais sa force est légendaire. Il brille sur les champs de bataille. Par exemple, il arrête à lui tout seul un escadron autrichien sur un pont. Il fait la campagne d'Italie, l'expédition d'Égypte avec Napoléon. C'est un personnage haut en couleur, un rebelle, et qui est fier d'avoir choisi de s'appeler Dumas, comme sa mère, négresse, plutôt que Davy de la Pailleterie, comme son père. D'ailleurs, il refuse à Napoléon d'aller rétablir l'esclavage à Saint-Domingue et il est mis d'office à la retraite.
Et voilà, alors Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Son père va mourir le 28 février, 4 ans plus tard. C'est un père qui va enflammer son imagination.
Bien sûr. À 5 ans, le petit Alexandre sait lire et écrire. Il dévore l'histoire sacrée de la Bible. Il dévore aussi Robinson Crusoe et les récits de la mythologie. C'est un enfant prodige qui suscite l'admiration. À 7 ans, il donne déjà son avis sur tout. Et dans ses mémoires, il se décrira ainsi. un enfant vaniteux, insolent, tout imbu de sa petite personne. Il aime la chasse, la bagarre, les armes.
Et à 14 ans, il ressemble de plus en plus à son père, le général. Il a les cheveux foncés, crépus, teint brun.
Et à 17 ans, il trouve un petit job de clerc de notaire et obtient enfin de sa mère, dont il partageait la chambre depuis ses 3 ans et demi, de faire chambre à part. Le voilà qui file vers ses premières amours.
Et oui, il écrit déjà des poèmes, quelques pièces de théâtre. Il monte un théâtre d'amateurs immédiatement. D'ailleurs, c'est un grand succès.
Et il va rencontrer, par hasard à Paris, le grand acteur Talma, qui joue dans une pièce de Corneille. Et voici leur dialogue. Talma.
Alors, que faites-vous en province ?
Je suis clerc de notaire.
Bof, il ne faut pas désespérer. Corneille était clerc de procureur, messieurs. Je vous présente un futur Corneille.
Décision est prise. Il va tenter de conquérir Paris. Il fait le tour des anciens amis de son père, le général, et parvient à se faire embaucher comme copiste au secrétariat du duc d'Orléans.
En tant que fils de veuve, il est exempté du service militaire.
Et il a beaucoup d'atouts. Une beauté athlétique, des facultés intellectuelles prodigieuses, patience, ténacité, ambition, volonté, plus la soif de revanche du paria social et racial. Mais il a aussi beaucoup d'humour, d'aisance. Il est bien loin de l'image du provincial balourd et naïf qui débarque à Paris. Il emménage un peu plus tard chez une couturière qui, pour ses 22 ans, lui offre un enfant, un fils naturel, prénommé Alexandre.
Évidemment, Alexandre Dumas, fils.
Travail, amour, études variées et relations mondaines. Voici la vie d'Alexandre Dumas à ce moment-là. Et pour la première fois, une de ses pièces est acceptée dans un théâtre. La chasse et l'amour, tout un programme. Et puis il écrit 3 nouvelles au rythme vif, intéressantes, dont La Rose Rouge.
Cette pièce, La Rose Rouge, va raconter les amours impossibles et tragiques de la fille d'un chef chouan et du général républicain Marceau.
Que nous connaissons bien,
Charles. Ah oui, bien entendu.
Alors, il en vend 4 exemplaires. C'est pas beaucoup, hein. Mais il n'est nullement affecté. Et il décide de fonder une revue littéraire qui s'appelle Psyché, qui accueillera des textes d'auteurs, Chateaubriand et surtout Victor Hugo. Il cherche aussi l'idée d'un beau drame. Mais pourquoi pas Christine de Suède, qui assassina son amant au château de Fontainebleau ?
Victor Hugo, qui vient d'écrire au même moment Cromwell. Alors, Alexandre Dumas est muté aux archives du duc d'Orléans.
Autrement dit, presque rien à faire. Oui, il peut écrire
exactement.
Comme il veut.
Alors,
Christine est acceptée par la Comédie française. Bon, Greta Garbo n'est pas encore née. Mademoiselle Mars pourrait jouer le rôle. Alexandre Dumas travaille ensuite à un grand drame moderne, Henri III.
Et qui était donc, n'oublions pas, le dernier des Valois.
C'est ça. Maîtrise de la technique du drame, personnages attachants et complexes, art de la répartie et des répliques qui font mouche. La première de Henri III a lieu le 10 février 1829. La salle est comble, le succès immense. C'est le premier drame romantique qui mêle le comique et le tragique, et cela un an avant la bataille d'Hernani. Stendhal lui-même trouve la pièce admirable.
Voilà, verve, entrain, jeunesse. Voici donc Alexandre Dumas. En cette année 1829, il va côtoyer Hugo, Lamartine, Musset, De Vigny, etc.
Et donc, une petite pause musicale avant de le laisser continuer son destin fantastique.
Peut-être juste quelques notes.
Quelques notes.
Voilà, dans les studios de Radio Grand Ciel, et nous présentons notre personnage insolite de ce mois-ci, et il s'agit de Alexandre Dumas. Alors, que pouvons-nous dire d'Alexandre Dumas qui vient de faire plein de pièces de théâtre, dont Christine ?
Alors, cette première pièce...
Cette Christine, ça a été vu, entendu, comment c'était alors ?
Elle a été bloquée, en fait, cette pièce, par la censure à cause d'une seule phrase, qui est celle-ci. « C'est un hochet royal trouvé dans mon berceau. » Et selon la censure de Charles X, cela mettrait en cause la légitimité, le droit divin, la succession, non, oui. Voilà. Bon. Mais Christine est enfin jouée en mars 1830 à l'Odéon. Le vacarme est indescriptible. 138 ans avant mai 68, la Sorbonne envahit l'Odéon, dont Dumas a ouvert les portes.
Alors, après la révolution au théâtre, va éclater la révolution tout simplement, tout court dans la rue.
1830. Alexandre Dumas y participe en observateur et en acteur. Il approuve cette jeunesse ardente du prolétariat héroïque qui montre un souffle épique et vengeur.
Alors passionné, prompt à s'enflammer, Dumas est aussi un homme de contradictions.
Oui, c'est vrai, car il est républicain de cœur, mais en fait, il est proche du duc d'Orléans, où il travaille, par exemple. Et surtout, il est le défenseur et l'ami de tous les exilés, les bannis, les emprisonnés. Mais sa vie est aussi un imbroglio invraisemblable d'amour. De nouvelles liaisons, il reçoit des lettres délirantes de jalousie, il y a des enfants bâtards, nés ou à naître. Enfin, le scandale et le ridicule ne tuent pas, certes, mais ses maîtresses se crêpent le chignon, il est la risée du tout Paris.
Alors, il va décider de se mettre au vert et de partir pour la Vendée. Il a été nommé envoyé spécial par Lafayette.
Et il en revient, de Vendée, avec un rapport plein de lucidité politique et d'humour. Sa nouvelle pièce, Antonie, fait une carrière triomphante. Elle se termine ainsi. « Elle me résistait, je l'ai assassinée. »
Voilà et une phrase.
À ce moment-là, on entend en général, même toujours, des cris de terreur et d'effroi dans la salle qui applaudit avec frénésie. Antonie va faire une superbe carrière, 131 représentations à Paris avant de partir en tournée.
Dans les 6 années à venir, donc de 1831 et 37, Dumas, en plus du théâtre, va se révéler en maître de la nouvelle.
Il écrit aussi des livres d'histoire, il est un chroniqueur redoutable, il va renouveler le récit de voyage, inventer le roman feuilleton et commencer son œuvre romanesque. Tout ceci entre 29 et 35 ans. Au théâtre, il donne par exemple La Tour de Nesle, un mélo tragicomique, et récit de voyage, eh bien, citons les impressions de voyage en Suisse, c'est bien loin d'un guide touristique. C'est en fait avec une attention fraternelle qu'il raconte ses récits, une attention fraternelle aux hommes, un humour dévastateur. Et puis, tout est possibilité de futurs romans ou nouvelles. Le hasard des rencontres, des aventures, tout cela l'inspire.
D'accord. Alors, c'est comme ça qu'il va écrire l'histoire de Jean sans peur, de Guillaume Tell.
Entre autres.
Ensuite, voilà, et la Gaule en France, qui va être un essai historique, une réflexion sur la démocratie.
Dans
voilà.
Un style, alors là, très très différent, bien sûr. Gaule et France, très sérieux.
Ben oui.
Et avec tout cela, le goût du panache, le sens de la fête. Il donne un bal à Paris avec une foule de célébrités. Et pour la décoration, Delacroix en personne lui a peint un panneau, le roi Rodrigue après la bataille.
Alors écrit ensuite une nouvelle pièce, Angèle, qui est un drame réaliste qui a un vif succès, préfigure 20 ans avant l'histoire de la Dame aux Camélias.
Il commence aussi ses mémoires, comme on l'a vu. Et en 1835, il part pour un voyage en Méditerranée. À Marseille, il visite le château d'If. Il s'attarde longuement dans la cellule où Mirabeau fut enfermé 9 mois. Un endroit idéal pour qu'y croupisse pendant 14 années un innocent. Par exemple, un certain Edmond Dantès.
Bien sûr.
Puis, c'est l'île Sainte-Marguerite près de Cannes. Et là, il se passionne pour le mystère de l'homme au masque de fer qui deviendra dans le vicomte de Bragelonne le frère jumeau de Louis XIV.
Alors, il va engranger, on le voit, la matière de ses futurs romans, futurs livres.
Oui, prestance, force physique, succès, il a tout à cette époque. Reste la négritude indélébile, comme ce dialogue qu'on lui prête.
Ah oui, au fait, cher maître, vous deviez bien vous y connaître en nègre.
Mais très certainement, mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit.
Et beaucoup d'humour.
Même Balzac, à qui on le comparait, répliqua « Vous n'allez pas me comparer à ce nègre ». On voit que c'est quand
pour
même
l'époque, quand même. Alors, Pouchkine, qui fut tué en duel en 1837, revendiquait à cette époque-là, fièrement, son ascendance africaine.
Dumas, lui, il fait rarement allusion, sauf dans Le Capitaine Pamphile et surtout dans Ingénu, un splendide hommage à ses ancêtres. Le 1er août 1838, il perd sa mère, à laquelle, on l'a vu, il était très attaché. C'est un chagrin qui touche au désespoir.
En 1839, la France s'ennuie, s'exclame Lamartine, comme l'éditorial du Monde en mars 1968. En Algérie, c'est l'insurrection d'Abdelkader, suivie d'une répression atroce.
Alexandre Dumas se marie avec une comédienne, Ida Ferrier, qu'il a souvent imposée dans ses pièces. Il a un roman en chantier, Le Maître d'Armes, sur la révolte des décabristes contre le tsar Nicolas Ier. Mais à l'approche de la quarantaine, il rêve toujours d'une grande œuvre romanesque à venir.
Alors pour mieux travailler, il va s'installer en Florence avec Ida. Il va écrire 10 heures par jour, comédie, roman, drame, nouvelle, sans parler de l'abondante correspondance qu'il laissait derrière lui.
Et en juin 1843, il revient en France. À peine débarqué à Marseille, il prend le temps d'aller fouiner dans les rayons de la bibliothèque et tombe sur les mémoires de Monsieur d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du roi. Il tient là un sujet. Peut-il emprunter le livre ? Il remplit une fiche de prêt et ne le rendra jamais.
Alors, Alexandre Dumas va se mettre au travail à un rythme hallucinant. 1843, c'est l'équivalent de 2 romans, 2 comédies, 1 drame, 1 essai sur Louis XIV et son siècle de 2000 pages quand même.
1844, c'est vertigineux. 8 romans dont 3 chefs-d'œuvre absolus. Il remplit les pages d'une écriture large et haute, aux majuscules fantaisistes. Il rature rarement et ne ponctue pas pour aller plus vite. Il écrit aussi un livre sur l'art. Comme on le voit, c'est très très éclectique. Il écrit de l'art au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et dans ses romans, il y a des anachronismes, bien sûr. Il va très vite. Il n'est pas foncièrement historien.
Il ne peut pas tout savoir.
Mais comme ce sont des romans feuilletons, il faut tout le temps happer le lecteur sur une courte distance, le tenir en haleine, lui donner envie de tourner les pages.
Alors, il a une théorie. Je crois que ce n'est pas bête. Commencer par intéresser le lecteur plutôt que l'ennuyer. Hein. L'action d'abord, après les explications. Et voilà, une conception moderne du roman, finalement, une fabuleuse année 1844, donc.
Qu'on en juge. De mars à juillet, Les Trois Mousquetaires paraissent dans le siècle avec un succès retentissant. Le comte de Monte-Cristo prend le relais à partir d'août, dans le journal des débats, puis la reine Margot dans la presse, suivie de la dame de Montsoreau dans le Constitutionnel et bien d'autres ouvrages.
Eh bien, je crois qu'après ça, on a bien besoin d'une petite pause. Peut-être juste quelques notes de musique avant de reprendre. Voilà. Voilà, notre dernière partie de notre émission Personnages insolites sur Radio Grand Ciel. Nous parlons d'Alexandre Dumas, dont nous avons appris dans la partie précédente qu'il avait épousé la comédienne Ida Ferrier. Et voilà, dans cette dernière partie de l'émission qu'il lui a consacrée, il se sépare d'elle. Il a beaucoup d'argent. Alexandre Dumas, sa silhouette commence à s'empâter. Il doit trop manger. Sérieusement. Alors, il aime tant la bonne chère. Cette année-là, il a aussi l'idée de construire et l'idée de devenir châtelain. Il fait construire un château. C'est celui de ses rêves à Port-Marly.
Oui, c'est ça. Et l'état de grâce continue en 1845. 20 ans après, le chevalier de Maison Rouge, il écrit 15 à 18 livres par an, comme Balzac. Son fils, qu'on appelle le Petit Dubas, ou Alexandre Dumas fils, a une liaison avec une courtisane tuberculeuse, Marie Duplessis, qui adore les camélias.
Ah, ben voilà, ça y est, la dame aux camélias. Le décor est planté presque, alors ça. Alors, Dumas va rendre visite au futur Napoléon III, qui est emprisonné alors au fort de Ham, et il va lui suggérer l'idée de s'évader. Aussitôt dit, aussitôt fait, le prisonnier, futur Napoléon III, va s'enfuir. Il parvient à sortir déguisé en maçon. Il deviendra l'empereur des Français quelques années plus tard.
Ça vaut le coup d'écouter les conseils d'Alexandre Dumas. Donc, notre Alexandre est bientôt châtelain. Et il arbore un ventre de propriétaire. Il crée un théâtre, le théâtre historique. Il publie Joseph Balsamo. Et là-dessus, le gouvernement a l'idée de l'envoyer en Algérie. Sa mission, rapporter quelques volumes d'impressions de voyage qui pourraient donner envie aux lecteurs de s'installer en Algérie comme colon, parce qu'il n'y a pas foule à l'époque pour aller s'installer là-bas.
Il va passer par l'Espagne, Tolède, Cordoue, Grenade, puis par le Maroc aussi. Le lecteur, d'ailleurs, ne s'ennuiera jamais. C'est une épopée, récit picaresque, hautement comique. Et elle a créé des tableaux animés et très colorés.
Et au retour, les chefs-d'œuvre continuent. De Paris à Cadix, Les 45, Le Vicomte de Bragelonne.
Voilà, alors notez tous ces titres qu'on les graine depuis un petit moment. En 1847, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il fête ses 45 ans et il pend la crémaillère au château. 600 invités. Le château qui se visite, vous pouvez aller le visiter à Port-Marly, s'appelle Monte Cristo. Quant au théâtre historique, il fait d'énormes recettes.
Et pourquoi pas la politique? Alors il décide de se présenter aux élections de 1848 et il va multiplier les meetings.
Il recueille 261 voix.
C'est pas
donc c'est rien du tout,
C'est
le futur Napoléon III qui est élu avec 70% des suffrages. Mais il en faut bien davantage à Alexandre Dumas pour le décourager. Il commence Le Collier de la Reine, puis La Jeunesse des Mousquetaires. Les pièces, les romans se suivent comme l'excellent La Tulipe Noire.
Je crois qu'il était meilleur écrivain que n'aurait été comme politicien. Alors son fils va connaître aussi le succès, donc Alexandre Dumas, fils, qui va écrire aussi, et il va donc créer la fameuse Dame aux camélias, qui va raconter ses amours avec Marie Duplessis.
Voilà. Dont Verdi tirera un chef-d'œuvre, La Traviata. Fin 1853, il crée un quotidien qui s'appelle Le Mousquetaire, il ne va jamais chercher très loin ses titres, et qui publiera par exemple les vers fameux de El Desdicado de Gérard de Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. On dit que Nerval l'aurait griffonné ce poème sur place au journal en manière de carte de visite pour Alexandre Dumas.
À 55 ans, il a une œuvre immense derrière lui. Allez, encore un hebdomadaire qui va s'appeler
Monte Cristo.
Bien entendu.
Alexandre Dumas s'y fait critique de livres, un critique fin et pénétrant. Il fait un grand voyage en Russie qu'il décrit avec une grande acuité et fait connaître aux lecteurs du Monte Cristo beaucoup d'écrivains russes, les poèmes de Lermontov, les nouvelles de Pouchkine. Et de ce voyage en Russie vont naître aussi les 2000 feuillets de En Russie et au Caucase.
Alors, sur le retour, il va s'arrêter aux Cyclades pour y commander un yacht qui va s'appeler, bien entendu, le Monte Cristo.
C'est la grande vie. De retour, il débarque à Marseille et où il fait grande impression, en costume kalmouk, bonnet à poil, cartouchière, sobre. Sabre. Pour fêter son retour...
Il n'est pas sobre. Hein.
Pas sobre du tout, non. Pour fêter son retour, ses amis lui offrent un fastueux banquet. Et nous ne résistons pas à vous donner le menu de ce dîner littéraire.
Alors, c'est un menu du dîner offert à Alexandre Dumas par ses amis à son retour de Russie. Alors, il y avait deux potages, Buckingham et Mohican.
Ensuite, deux relevés, truite à la Henri III, homard à la Porthos.
Un filet de bœuf à la Monte Cristo, bouchée à la Reine Margot, faisant perdre eau. Et caille bécasse, voilà. Faisant perdre caille et bécasse, voilà, tout ça.
Petit pois aux frères corses, écrevisse à la d'Artagnan, entremets aux mousquetaires, crème à la reine Christine, bombe à la dame de Montsoreau, salade à la Dumas, plus desserts assortis, corbeille de fruits de mademoiselle de Belle-Île, sans compter bien sûr une bonne douzaine d'excellents vins.
Voilà, alors il va repartir en Italie.
Cette fois, oui, où il soutient avec enthousiasme Garibaldi, un voyage échevelé tout en rebondissements et en aventures débridées. Et bien sûr, de nombreuses conquêtes.
Alors, on prête à Alexandre Dumas 500 enfants non reconnus quand même. Des
Alors, un chiffre exagéré sans doute. Quoique, Alexandre Dumas a dit « C'est par humanité que j'ai des maîtresses. Si je n'en avais qu'une, elle serait morte avant 8 jours. »
Je crois qu'il était un peu vantard, mais enfin bon. En mai 1864, il va rentrer d'Italie avec sous le bras le début de la San Felice.
Un énorme roman de 3000 feuillets, un chef-d'œuvre sur la conquête de Naples par les troupes de Bonaparte et sur le destin de son père, le fameux général. Ses lecteurs ne cessent de croître en milieu populaire. En 1865, encore un très bon livre, Les souvenirs d'une favorite.
Encore un très bon livre, hein, je crois. À plus de 60 ans, sa créativité reste foisonnante. Il est devenu, par contre, énorme. Il souffle au moindre mouvement, mais toujours pétillant d'esprit.
Encore une réussite avec La terreur prussienne, un livre prémonitoire de la guerre de 1870, de l'Alexandre en grande forme. Un nouveau journal, en février 1861, le D'Artagnan,
bien sûr,
et des conférences qui attirent les foules.
Alors, même si sa santé se détériore malgré tout, il écrit toujours, en fait, il est condamné aux travaux littéraires forcés par l'étendue de ses dettes, parce qu'il a beau gagner
Mais
beaucoup
oui,
d'argent.
Toujours écrire, parce qu'il dépense aussi énormément. Encore un livre, La fille du marquis, un volumineux et excellent roman. Je vous donne beaucoup de conseils de lecture, là. Enfin, il a un projet dont il rêve depuis longtemps, car il est gourmand et gourmé. Il mijote un grand dictionnaire de cuisine et remet le manuscrit en mars 1870.
L'ouvrage va paraître en 1873, mais déjà après la mort de Dumas. C'est un monument culinaire, une cathédrale gastronomique,
on peut dire,
mais aussi un pur plaisir, truffé d'anecdotes.
Le 2 septembre 1870, Napoléon III capitule à Sedan. Le 5 décembre 1870, s'éteint Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, là où il était né et là où il repose aujourd'hui. Il a laissé une œuvre innombrable, 646 titres, une cavalcade effrénée comme sa vie, 37 267 personnages dont certains sont encore aujourd'hui nos compagnons de route.
Et voilà, ça, merci Christine de nous avoir amené dans la vie et dans les romans d'Alexandre Dumas.
Merci, c'était un plaisir, Elisabeth,
de lire.
Et nous écoutons quelques notes de la Traviata.
Oui.
Il fait penser à son fils et donc
et
à lui. Et
Dame aux camélias, bien sûr.
Essere amore.